Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Emmanuel Macron ne lâche rien sur la hausse des taxes sur le carburant. En direct sur TF1 ce soir, le président a cherché à expliquer sa politique fiscale au nom de la transition énergétique. Dans ce journal, l'analyse de Stéphane Robert. Ce matin, le Premier ministre Édouard Philippe avait annoncé une série de mesures destinées à accompagner les Français les plus modestes dans cette transition énergétique. Nous en parlerons avec notre invitée Sandra Regol, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Le projet d'accord sur le Brexit a franchi une nouvelle étape ce soir. Le document a été approuvé par le gouvernement britannique. Une première victoire pour Theresa May. Nous serons en direct de Londres avec Antoine Gignot. L'exécutif met les bouchées doubles pour désamorcer la contestation sociale alors que les gilets jaunes manifesteront samedi contre la hausse des taxes sur le carburant. Premier acte ce matin sur RTL, Édouard Philippe annonce une série de mesures destinées à soulager cette hausse. 500 millions d'euros au total pour aider les Français les plus modestes à acheter une voiture propre et payer leurs factures d'énergie. Deuxième acte ce soir dans le 20h de TF1, Emmanuel Macron en direct du porte-avions Charles de Gaulle justifie la hausse des taxes au nom de la nécessaire transition énergétique. Stéphane Robert, bonsoir.
Oui, bonsoir Stanislas.
Le président a essayé de faire de la pédagogie tout en restant ferme sur ses objectifs politiques.
Oui, Emmanuel Macron a dit comprendre la colère d'une partie de la population contre la hausse des prix du carburant. Il est légitime qu'elle puisse s'exprimer, a concédé le président. En revanche, il y a selon lui un manque de cohérence dans les revendications politiques de certains manifestants.
J'ai du mal à comprendre. Les blocages vont être faits d'un côté par des gens qui me disent chaque jour: il faut augmenter le SMIC, il faut augmenter le nombre d'emplois publics, plutôt à gauche. Et qui vont aller manifester avec des gens qui, à droite, disent « il faut baisser les taxes ». Baisser les taxes, comment on le fait ? En baissant les dépenses publiques.
Ensuite, pour justifier ce qu'il est en train de faire, notamment la hausse des taxes sur les carburants, le chef de l'État a essayé de redonner du sens à son action, de l'inscrire dans le temps long, en dénonçant les polémiques politiciennes et conjoncturelles.
Je voudrais quand même qu'on sorte d'une forme de poujadisme contemporain où les mêmes qui vous disent « on paye trop d'impôts » sont les mêmes qui vous disent, dès que vous commencez à demander des efforts ou à faire des réformes en profondeur, vous disent « ne touchez pas aux dotations, ne demandez pas d'efforts aux collectivités locales, ne demandez surtout aucun effort ou aucun changement, ça n'est pas possible ». Et donc, le cap sur lequel je me suis engagé devant les Françaises et les Français consiste à avoir une politique de transformation en profondeur du pays. On ne le fera pas en un an, on ne fait pas davantage en 18 mois, il prendra le temps de ce quinquennat.
En faisant cela, Emmanuel Macron essaie de se donner du temps. Il a expliqué qu'il était en train de mener une politique de transformation du pays et qu'il faut être un peu patient pour en voir les résultats. L'exercice auquel il s'est livré de remise en perspective était plutôt réussi. Le bémol tout de même est de savoir si les Français qui se disent en colère et qui s'apprêtent à manifester samedi étaient dans la disposition d'esprit, ne serait-ce que d'écouter ce que le président avait à leur dire.
Stéphane Robert, merci. Interrogé sur les tweets agressifs de Donald Trump à son encontre, Emmanuel Macron a tenté de calmer le jeu. Entre alliés, on se doit le respect, a dit le chef de l'État, en ajoutant « Je pense que Donald Trump fait de la politique américaine et je lui laisse faire de la politique américaine ». On va revenir maintenant sur cette question de la hausse des carburants et les mesures d'accompagnement annoncées par le gouvernement avec notre invitée Sandra Regol, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Bonsoir.
Bonsoir.
Sandra Regol, première question, quel est votre sentiment après l'intervention d'Emmanuel Macron ce soir en direct sur TF1 ?
J'ai surtout l'impression qu'il parle beaucoup de manque de cohérence chez tout le monde, qu'en particulier il fait porter toutes les fautes sur le grand public, mais que je note surtout du côté du gouvernement et particulièrement du côté du président beaucoup d'incohérence et beaucoup d'insincérité. Parce que si la transition écologique de la société était vraiment son objectif, pourquoi est-ce qu'il ne tape pas sur les plus grands pollueurs ? Pourquoi est-ce qu'il continue à subventionner à coups de milliards des entreprises comme Total, qui est simplement le 19e pollueur au rang mondial ? Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas porter les demandes sur les constructeurs qui continuent à préférer investir dans des SUV hautement polluants plutôt que d'essayer de mettre l'accent sur la recherche et le développement pour avoir des voitures qui coûte moins cher et qui pollue moins.
Et donc, il faut taper sur Total, selon vous, plutôt que sur les automobilistes ?
Quand on veut appliquer le principe pollueur-payeur, on applique réellement le principe pollueur-payeur. Et donc, on ne cherche pas juste à collecter un peu plus de taxes sur le dos des Françaises et des Français pour financer, d'un côté, l'ISF qu'on a baissé, de l'autre, le CICE, de l'autre encore, les flat tax, etc., etc. À un moment donné, il faut un petit peu de pragmatisme et un peu de cohérence. C'est ce que demande l'écologie. Vous savez, moi je suis écologiste, mon parti et moi-même, on a toujours dit que indexer la fiscalité du diesel sur l'essence était une nécessité, mais que c'était juste une toute petite partie du couteau suisse des solutions qu'il fallait pour arriver à endiguer le dérèglement climatique. Or, si vous n'utilisez qu'une toute petite partie, vous créez ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron actuellement. C'est-à-dire que comme il provoque des choses sans proposer d'alternative, eh bien tout ce qu'il fait, c'est rendre, aux yeux de beaucoup de Françaises et de Français, la transition écologique détestable. C'est à se demander si, après le départ de Nicolas Hulot, qui a provoqué beaucoup de remous, et au jour où sortent beaucoup de sondages qui mettent comme préoccupation majeure des Françaises et des Français, quelle que soit leur origine sociale, la transition et la protection de la planète, c'est à se demander si justement ils ne cherchent pas à faire en sorte que tout ça devienne détestable.
Alors, faut-il en conclure, Sandra Regol, que les écologistes soutiennent le mouvement des Gilets jaunes qui appelle à des blocages samedi ?
C'est compliqué de soutenir un mouvement qui demande qu'on supprime des taxes que nous-mêmes estimons faire partie des outils nécessaires pour enclencher la transition. C'est d'autant plus difficile que les gens qui seront dans la rue, en tout cas les gens qu'on a eu l'occasion de rencontrer, sont surtout des gens qui subissent de plein fouet l'ensemble des réformes qui oppressent les classes les plus populaires de la société. Ce qu'expriment ces gens-là, c'est juste un ras-le-bol. Peut-être que ça aurait pu se déclencher sur autre chose, mais là, le ras-le-bol intervient sur des taxes carbone.
Et donc vous comprenez ce ras-le-bol ?
On comprend tout à fait le ras-le-bol, puisqu'on a par ailleurs dénoncé l'ensemble des propositions politiques qui font peser ce ras-le-bol sur ces personnes. Mais après, c'est très compliqué, puisque Emmanuel Macron arrive à rendre détestable une mesure qui n'était que compensatoire à la base. Ça fait 30 ans, 40 ans, que le diesel est subventionné en France. Ces gens qui roulent en diesel aujourd'hui ne l'ont pas choisi. Ce sont les politiques mises en place qui les ont conduits, qui les ont quasi contraints à utiliser le diesel. On leur a raconté que ça polluait moins, que c'était meilleur pour leur santé, que ça leur coûterait moins cher. Et ils apprennent aujourd'hui que quelque part, c'est leur faute si leurs enfants souffrent de maladies respiratoires, que quelque part c'est leur faute si 131 personnes meurent chaque jour en France d'effet de la pollution aux particules fines. Et on leur dit, mais vous allez encore payer plus cher là-dessus, parce qu'on leur a fait croire pendant des années que le diesel était pas cher et qu'il fallait qu'ils s'équipent en diesel. Et bien tout ça, c'est une énorme arnaque qui est faite à la fois par des gouvernements et par des entreprises, et rien de tout ça est normal, donc oui, le ras-le-bol est compréhensible, mais pour autant, en tant qu'écologiste, nous ne pouvons soutenir une manifestation qui appelle à lutter contre des outils qui sont nécessaires pour la transition.
Sandra Regol, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Merci d'avoir été l'invitée de France Culture ce soir. Le projet d'accord sur le Brexit a franchi une nouvelle étape ce soir. Le gouvernement britannique a adopté le texte proposé par les négociateurs de Londres et Bruxelles, un document technique qui organise la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. On retrouve à Londres notre correspondant Antoine Gignot. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, l'adoption de ce texte par le gouvernement britannique est une victoire pour la Première ministre Theresa May, mais il ne s'agit que d'une première bataille gagnée.
Absolument. C'était une décision difficile à prendre, explique Theresa May, mais c'est un pas décisif. De fait, il a fallu près de 5 heures de discussion pour convaincre les membres du gouvernement, pour arriver à surmonter les divisions sur le sujet. Le texte tient sur près de 600 pages au total. Il prévoit de maintenir le Royaume-Uni dans une union douanière avec les pays de l'Union européenne pour éviter de perturber les échanges commerciaux. Du côté des services, le projet donne aux banques, au secteur financier de la City, un accès limité au marché européen, sur un modèle d'équivalence, un peu comme ce qui existe aujourd'hui entre les pays de l'Union et les États-Unis. Enfin, pour ne pas reconstruire une frontière en Irlande, le projet d'accord oblige Belfast à s'aligner sur les règles européennes en adoptant les mêmes normes, et c'est là toute la difficulté. Les unionistes nord-irlandais ont déjà prévenu, ils ne veulent pas d'un statut spécial, ils ne voteront pas pour le texte lors de son examen au Parlement mi-décembre. Le gouvernement ne pourra pas non plus compter sur une trentaine ou une quarantaine de conservateurs eurosceptiques qui, dans le sillage de Boris Johnson, l'ancien ministre des Affaires étrangères, dénoncent cet accord qui les laisserait, selon eux, prisonniers, vassaux de Bruxelles. Ils pourraient même, dès demain, réclamer un vote de défiance à l'encontre de Theresa May.
Antoine Gignot en direct de Londres, merci. À Bruxelles, l'Union européenne a publié ce soir ce projet d'accord sur le Brexit, un document de 585 pages. Michel Barnier, le négociateur européen, affirme qu'une solution a été trouvée pour éviter, je cite, une frontière dure entre la République d'Irlande et l'Ulster, l'Irlande du Nord, partie intégrante du Royaume-Uni. Au Proche-Orient, un calme précaire est revenu à Gaza et en Israël. Les Palestiniens et les Israéliens respectent globalement le cessez-le-feu négocié hier par l'Égypte. Mais cette baisse de tension après 24 heures de violence a débouché sur une crise politique à Jérusalem. Le ministre israélien de la Défense, l'ultranationaliste Avigdor Lieberman, a annoncé sa démission. Il n'est pas d'accord avec le cessez-le-feu et ce départ fracassant menace la coalition de Benjamin Netanyahou. Étienne Monin.
Avec cette démission, le Premier ministre perd sa marge de manœuvre, sa majorité au Parlement ne tient qu'à une voix, sa coalition redevient dépendante d'un autre parti nationaliste, il y a un risque de surenchère à droite et une menace d'élection anticipée. Avigdor Lieberman quitte le gouvernement essentiellement pour sa politique vis-à-vis de Gaza. L'ancien ministre de la Défense rejette à la fois le cessez-le-feu négocié hier et la politique humanitaire adoptée par le Premier ministre depuis plusieurs semaines maintenant pour tenter de faire baisser la pression dans la bande de Gaza. Avigdor Lieberman a donc pris une décision d'opportunité. Il a entendu le ras-le-bol d'une partie de la population après un nouveau cycle d'affrontements. Il a toujours plaidé pour une solution militaire contre le Hamas. Il lance en quelque sorte une pré-campagne électorale sur Gaza pour tenter de siphonner les voix à l'extrême droite au moment où il a du mal à décoller dans les sondages.
Étienne Monin, correspondant de Radio France à Jérusalem. Aux États-Unis, Fox News soutient CNN dans sa démarche judiciaire contre Donald Trump, la chaîne CNN qui conteste en justice le retrait de l'accréditation de l'un de ses journalistes à la Maison-Blanche, Jim DaCosta. La chaîne Fox News, connue pourtant pour ses positions pro-Trump, n'approuve pas cette mesure. Les accréditations ne devraient pas être utilisées comme une arme. C'est ce qu'estime le président de Fox News, Jay Wallace. Retour en France avec le procès de Georges Tron et de Brigitte Gruel qui entre dans sa dernière ligne droite à la cour d'assises de Bobigny. Ce matin, l'avocat général a requis 6 ans et 4 ans de prison à l'encontre du maire de Draveil et de son ex-adjointe. Tous deux sont accusés de viol et d'agression sexuelle par deux anciennes salariées de la mairie. Cet après-midi, la défense a plaidé l'innocence des deux accusés et l'avocat de Georges Tron, maître Éric Dupont-Moretti, a cherché à démonter l'accusation. Le compte-rendu d'audience de Florence Turm.
On parle ici d'honneur, d'un dossier singulier. Éric Dupont-Moretti joue sur les silences, les intonations, les indignations et les colères, mais aussi la procédure, déplore la place de la victime qui devient progressivement l'âme du procès pénal. Aujourd'hui, la seule question qui se pose, c'est a-t-on rapporté les preuves de la culpabilité de cette femme et de cet homme ? Le ministère public à la charge de la preuve poursuit l'avocat qui se lance dans une charge ouverte contre le réquisitoire, démagogue, narcissique, imprécis, scandaleux. Apostrophe l'avocat général qui a dépeint Georges Tron comme un professionnel de l'embrouille. Vous voulez inscrire votre nom dans la procédure, mais vous allez sortir par la petite porte de service. Tempête au passage contre la presse et son populisme effrayant. S'adresse à Eva Loubrieux, restée seule sur le banc des parties civiles, relit l'une de ses dépositions. Je me suis laissée caresser dans la promesse d'être embauchée. « Mais tant pis pour vous, madame, tonne Éric Dupont-Moretti. » Il ironise encore, anecdote à l'appui, sur la distance de sécurité désormais nécessaire entre les hommes et les femmes, se rapproche enfin des jurés. « Moi, j'ai la certitude que c'est un mec bien, la certitude de son innocence. Vous avez le droit de dire « je ne sais pas ce qui s'est passé », conclut l'avocat de Georges Tron. « Si vous le condamnez, vous aurez jugé, mais vous n'aurez pas rendu justice. »
Florence Turm, merci. Demain, les deux accusés auront une dernière fois la parole avant que la cour ne se retire pour délibérer. Verdict attendu en cours de journée. Le temps demain restera gris et brumeux en général. L'après-midi, le ciel se dégagera sur la moitié est et dans le sud-ouest. Ailleurs, la grisaille persistera. Les températures minimales, des petites gelées dans le nord-est et de 4 à 15 degrés sur les autres régions. Les maximales très contrastées iront de 8 à 20 degrés du nord au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Benetto.